Saint-Amand. Dans la campagne celtique, qui traquait Trotsky.
Bernard Anthony au micro, merci à Stéphane à la technique. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Je suis ce soir avec Jeanne Smith, nous attendons Richard Haddad, mais nous allons commencer amplement cette émission avec quelqu'un que nous avons déjà fait venir ici à ce micro, que nous connaissons donc maintenant très bien, et que nous admirons pour son courage et son combat. Ce soir, nous avons autour de la table aussi donc Mourad Amelal, qui est le chef de cabinet de Ferhat Mehani. Et Ferhat Mehani est le président du gouvernement Kabyle en exil. Est-ce qu'on peut ajouter un autre titre, cher Ferhat Mehani ?
C'est suffisant.
C'est suffisant, voilà, j'étais sûr que vous me diriez cela. Alors, écoutez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Une demi-heure consacrée à la cause Kabyle, que vous incarnez admirablement. Alors, voilà, où en est la cause Kabyle aujourd'hui, cher Ferhat ?
La cause Kabyle a été enterrée à l'indépendance de l'Algérie. C'était la Kabylie qui avait libéré le pays, mais il y a usurpation par la suite de l'effort de guerre. Des armées des frontières de Tunisie et du Maroc étaient entrées et ont pris le pouvoir. Et donc la Kabylie est devenue, à partir de là, le souffre-douleur parce qu'elle avait la légitimité du combat pour l'indépendance. Et les armées des frontières n'avaient aucune légitimité. D'ailleurs, à ce jour, il y en a qui pensent que l'armée algérienne actuelle, l'ANP, ce qu'on appelle l'armée nationale populaire en Algérie, est l'héritière de l'armée de libération nationale. C'est plutôt une armée d'usurpation du combat et de la symbolique de la guerre d'indépendance sur laquelle le régime algérien base sa rente mémorielle contre la France particulièrement. Et dans cette histoire, la Kabylie a été en même temps sanctionnée par la France parce qu'elle était à la base de l'indépendance, du combat pour l'indépendance, et en même temps sanctionnée par l'Algérie parce qu'elle n'a pas la légitimité du combat comme elle. Et depuis, donc, il y a une politique qui consiste à laminer les différences. L'Algérie devait ressembler à la France, idéologiquement et politiquement. Donc, il faut une langue, une religion, et ils ont ajouté aussi, en même temps, un seul parti politique. Et donc, toutes les différences devaient être laminées, et la Kabylie n'a jamais admis cela.
Finalement, la Kabylie a souffert de l'erreur essentielle de la République française qui s'appelle le jacobinisme.
Ceci d'une part, mais le péché originel était d'avoir annexé la Kabylie à l'Algérie française en 1857, alors qu'il y avait deux États qui cohabitaient à l'époque, l'État français du gouvernement d'Alger et l'État kabyle qui gouvernait la Kabylie. Donc ceci a amené actuellement le fait que la Kabylie, qui a été privée de l'ensemble de ses droits, de sa langue, du droit, c'est tout simple, de s'autogouverner, est sommée de se dissoudre dans l'Algérie linguistiquement, culturellement, idéologiquement, politiquement, en termes de valeurs. La Kabylie a des valeurs complètement différentes de celles de l'Algérie. La Kabylie est laïque, l'Algérie est plutôt rigoriste, la Kabylie tolère l'ensemble des religions, le christianisme, le judaïsme, l'athéisme, l'évangélisme. Donc on tolère toutes les croyances et nous jurons au nom de toutes les croyances en Kabylie. C'est comme ça qu'on dit en Kabylie. Et donc notre combat dans un premier temps fut de nous intégrer dans l'Algérie. Et l'Algérie ne nous accepte pas en tant que Kabyle. elle ne nous accepte qu'en tant qu'Algériens, c'est-à-dire décabilisés. C'est un génocide culturel que l'Algérie tente sur la Kabylie depuis 1962. Nous avons joué le jeu jusqu'à la démocratisation de l'Algérie en 89. C'est la Kabylie qui particulièrement avait lutté pour la démocratisation. Et à la démocratisation, nous avons en même temps découvert combien le racisme d'État avait imprégné la société algérienne contre les Kabyles et l'isolement dans lequel on se trouvait, puisqu'il y avait deux partis politiques kabyles, le Front des Forces Socialistes de Hossein et Ahmed et le RCD, auquel j'avais personnellement participé à la création et à la fondation. Donc, à ce moment-là, j'ai engagé personnellement le boycott scolaire en 1994-95, qui, pour la première fois, avait abouti à quelque chose, à quelques résultats politiques, puisque, pour une fois, la berbérité a été acceptée en tant que telle, mais l'enseignement tardait à venir, cela ne fait rien. En tous les cas, cette expérience nous a montré que, malgré tous les efforts que nous avions faits pour nous algérianiser, rien n'y faisait. Et on a trouvé nous-mêmes qu'après avoir arraché le droit à la langue, même si ce n'est pas le Kabyle qui a été reconnu en tant que tel, nous avions découvert que nous étions toujours insatisfaits, puisque nous n'avions pas de pouvoir pour nous-mêmes, ni même pour notre langue. Et il y a eu, à partir de l'assassinat de Mahdi Boulounès en 1998, un réel sentiment de révolte contre l'Algérie. Et en 2001, il y a eu le printemps noir. La Kabylie est descendue dans la rue après que le pouvoir ait tiré sur nos enfants qui manifestaient pacifiquement. Et c'était, disons, il y avait officiellement 130 morts, mais en fait, il y a eu plus de 150, puisqu'il y a des morts qui, après leurs blessures, avaient succombé à ces dernières. Donc, c'est à ce moment-là que la Kabylie, avec moi et d'autres amis, nous avons créé des mouvements pour l'autonomie de la Kabylie dans un premier temps, et nous avons commencé à travailler, à militer, à œuvrer pour que la Kabylie ait un destin distingué de l'Algérie. Voilà, destin de l'Algérie, un destin distinct de l'Algérie. Et en 2010, nous avons créé le gouvernement provisoire kabyle en France. Et depuis, nous avons cheminé de l'autonomie, nous sommes passés à l'autodétermination. Et donc, des congrès ont confirmé cela. Et depuis 2021, l'Algérie nous a classés en tant qu'organisation terroriste, même si nous n'avons jamais été les auteurs d'un quelconque acte de violence. Voilà. Et donc, chemin faisant, la Kabylie a marché avec nous, la Kabylie a adhéré au projet massivement. Et c'est probablement parce qu'il y avait cette adhésion, il y a cette adhésion toujours qui est là, que le régime nous a classés en tant que terroristes, de telle sorte à se donner les moyens répressifs pour nous contrer. Sauf que ce qu'il ne comprend pas, c'est que tous les systèmes coloniaux, dès lors qu'ils sont contestés massivement, ils sont condamnés à mourir de toutes les façons. Donc la Kabylie avance vers son indépendance et le 14 décembre 2025, il y a quelques mois, nous avons proclamé l'indépendance de la Kabylie. Voilà où en est le combat de la Kabylie. Nous sommes sortis du mouvement de revendication qui était le nôtre pour bâtir des structures d'un État pérenne et nous avons donc réalisé déjà au bénéfice de la Kabylie de nombreux attributs de souveraineté que nous avons concrétisés.
Jeanne Smith, vous
évoquez d'une part la répression dont vous faites l'objet, on vous classe terroriste, et vous parlez de cette adhésion populaire qui est massive. Comment est-ce que vous pouvez la connaître dans ce contexte? Mouvement de fond, comment ça se passe?
Nous la connaissions d'abord à travers toutes les marches que nous organisions. À chaque fois que nous appelions à une marche, les rues de Kabylie étaient pleines de monde. Et y compris ici en France, les marches du mouvement pour l'autodétermination de Kabylie sont immenses, même si aucun média français n'en fait cas. D'ailleurs, nous ne comprenons pas cet ostracisme, cette chape de plomb qui frappe les manifestations de la Kabylie en France, pays des droits de l'homme, et qui, normalement, devrait aussi défendre la cause de nos prisonniers et qui ne le fait pas. Nous, d'ailleurs, dans ce cadre-là, actuellement, depuis 2021, il y a comme une loi martiale qui est engagée, qui est imposée à la Kabylie. Il y a même ils ont poussé le culot jusqu'à transporter la répression qu'il y a en Kabylie vers des opposants à l'étranger, pour les traquer, pour les intimider, pour leur faire du chantage et leur faire signer des déclarations de repentissement.
Oui, c'est de la répression transnationale.
Oui,
il y a pas mal de répression, et je pense que ça peut intéresser vos auditeurs. Il y a pas mal de répression transnationale, parce que la communauté kabyle est nombreuse en France.
Est-ce que vous pouvez dire un chiffre?
On pense qu'autour de 2 millions de Kabyles sont présents sur le territoire français, donc des franco-kabyles.
Ceci dit, la répression ne marche pas. Vous savez, ça fait depuis 2021 qu'ils essaient de démobiliser des militants, de leur faire du chantage, des intimider, de s'en prendre à leurs parents, s'en prendre à leurs enfants même.
Est-ce qu'on peut dire, vous en savez quelque chose de vous faire attention?
Oui, bon, moi on a commencé par m'assassiner mon fils, par la suite il y a mon neveu qui est en prison, puis on essaye de mobiliser autour de moi des membres de la famille pour dénoncer ce que je fais. Mais ceci est une pratique de tous les systèmes colonialistes. C'est ce que l'Algérie ne réalise pas. Plus elle fait dans cette politique, plus elle affirme, elle réaffirme, elle démontre que c'est un régime colonial qui est instauré en Kabylie. Et là, nous avons plus de 500 militants qui sont en prison arbitrairement. Ils n'ont jamais rien commis de quoi que ce soit. Mais l'Algérie s'est dotée d'une loi liberticide qu'on appelle l'article 87 bis et suite, par laquelle elle contrevient à la définition même du terrorisme entendue par des standards de l'ONU, et qui fait que pour une opinion différente de celle du régime, on vous emmène en prison, vous devenez un terroriste automatiquement. Et d'ailleurs, il y a des Français aussi qui sont actuellement par leurs acquaintances avec les Kabyles, qui sont soit chassés en tant que youtubeurs, en tant qu'influenceurs d'Algérie, soit emprisonnés comme Christophe Glaise. Et d'ailleurs, nous ne comprenons pas comment se fait-il que la France, avec tous les moyens dont elle dispose, des officiels français rendent visite aux Algériens sans que Christophe Glaise ne soit libéré. Lui, Christophe Glaise, est un homme qui s'occupe de football, c'est un journaliste sportif. Il a enquêté sur l'équipe de la Kabylie, sur l'équipe de la JSK notamment, et il a été mis en prison. Nous sommes à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde. La moindre des choses serait que la France exige qu'un journaliste sportif, et que le monde entier aussi, et qu'elle alerte le monde entier sur le fait que l'Algérie, qui participe par ailleurs au Mondial, emprisonne un journaliste sportif. Et je profite de ce fait pour dire également qu'il y a un franco-kabyle qui était le président de la jeunesse sportive de Kabylie, qui est toujours en prison lui-même. Et c'est l'une des personnalités que Christophe Glaize voulait interviewer à un moment donné. Nous ne comprenons pas comment le monde fait avec les dictatures. En tous les cas, nous attendons du monde entier que la question kabyle soit enfin reconnue, qu'elle soit étudiée et qu'on envisage les moyens appropriés pour que le peuple kabyle exerce son droit le plus légitime et le plus sacré à l'autodétermination. Même si nous avons proclamé notre indépendance, le référendum d'autodétermination, nous y souscrivons sans aucun problème, parce que j'ai eu même un officiel algérien avec lequel j'ai discuté en aparté et de façon tout à fait informelle et clandestine, parce qu'il y a un risque gros si on venait à savoir qu'il est avec nous. Il a dit s'il y a un référendum aujourd'hui d'autodétermination en Kabylie, il y aurait 110% de oui pour l'indépendance. Voilà, vous voyez, donc ce sont des officiels qui parlent. Et en même temps, ici, donc, nous sortons, la cause kabyle sort de la revendication pour l'étape de la construction, de bâtir un État pérenne, dont nous avons, comme je l'ai déjà dit, institué un certain nombre d'attributions de souveraineté.
Est-ce que vous avez une politique d'entente avec d'autres peuples berbères? Est-ce qu'il y a dans les autres peuples berbères des mouvements qui ressemblent au vôtre pour une autonomie, une indépendance?
En Algérie, je suis connu d'abord en tant que militant culturel, avant de devenir un responsable politique. Je suis chanteur, auteur, compositeur, et donc je suis connu bien avant le fait de la démocratisation, entre guillemets, de 1989. Je suis un chanteur protestataire, donc connu à l'échelle de tous les Amazirs, qu'ils soient en Libye, qu'ils soient en Tunisie, qu'ils soient au Niger, au Mali, qu'ils soient en Algérie ou au Maroc. Donc, le contact, je l'ai gardé personnellement avec tout le monde et nous fraternisons avec tous. Sauf que les Amazirs n'ont pas tous les mêmes revendications, n'ont pas tous le même niveau de gravité de leur cas. Et donc, les revendications sont différentes. Il y en a qui sont plus violents encore, comme la Zawad qui a pris les armes pour son indépendance. Mais nous, en tant que Kabyle, nous avons mis la barre là où il fallait, graduellement, en passant par l'autonomie d'abord, puis l'autodétermination et par la proclamation de notre indépendance. Mais nous sommes toujours ouverts au dialogue, sans mettre la pression à qui que ce soit, sans égorger des gens comme le font d'autres, sans tirer sur qui que ce soit. Nous sommes là, des hommes de paix, et nous voudrions que, au nom de toutes les croyances de la Kabylie, au nom des valeurs de tolérance et de respect de l'humain, nous sommes là pour dialoguer avec tout le monde. Et ce n'est pas par hasard que la Kabylie reste, par exemple, l'une des contrées où les conversions au christianisme sont importantes.
Excusez-moi, je suis un petit problème de tout. Nous étions ensemble, cher Ferhat Mehni, avec Mourad aussi, dans un restaurant kabyle du 11e arrondissement. Et j'ai vu avec joie qu'un certain nombre de vos voisins, propriétaires de restaurants aussi, venaient vers nous. Et l'un d'eux, je m'en souviens, m'a entretenu très brillamment de Saint-Augustin. Hein, donc, Saint-Augustin qui est quand même, qui est un grand personnage kabyle. Est-ce que vous pouvez en dire un mot de ce fait que, autour de vous, dans les restaurants qui étaient autour de celui où nous étions reçus, il y avait là des commentateurs de Saint-Augustin, de Saint-Maudite. J'ai été très agréablement surpris.
Les kabyles ont l'esprit ouvert. Ils sont universalistes, ils ont lu pratiquement tous les classiques français et tous les, des classiques arabes également, comme il y en a qui ont lu des classiques allemands ou anglais. Et les Kabyles ont cette ouverture d'esprit qui fait qu'ils se sentent humains. Et d'ailleurs, c'est un berbère qui a dit « Je suis humain et tout ce qui est... je suis un homme, Tertullien, je pense, qui avait dit que je suis un homme et tout ce qui est, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Voilà. Donc, nous sommes là pour aussi accueillir tout le monde. Concernant Saint-Augustin, vous l'évoquez, c'est un patrimoine national pour la Kabylie, hein, et il faut rendre justice à sa sainteté, le pape qui a été pour la première fois sur les traces de Saint-Augustin pour se recueillir. Nous aurions applaudi très fort s'il n'y avait pas quelques bémols, notamment le fait d'avoir cédé sur des protocoles d'État et qui, de ne pas d'avoir accepté de reproduire un récit national algérien qui n'est pas le nôtre et qui est complètement faux. De considérer que Saint-Augustin était algérien est une erreur. Historique, c'est comme si on disait que la France, que la Gaule, c'est la France d'aujourd'hui. Hein, la Berbérie de l'époque n'est pas l'Algérie d'aujourd'hui. Et en plus, c'était l'Empire romain qui régnait à l'époque, même si la Kabylie, lui, était toujours opposée. Mmh. Voilà. Et nous aurions aussi aimé qu'il parlât des prisonniers politiques, même si son discours contenait beaucoup de leçons d'humanité, mais la dictature était-elle en capacité de recevoir un discours humaniste? Je ne pense pas. Les dictatures sont inhumaines et sont sourdes à la raison.
Jeanne Smith.
Vous avez parlé de l'héritage de Rome, et justement, un auditeur de Radio Courtoisie nous écrit « Bonsoir à tous ». J'adore entendre les restes de l'histoire romaine dans les prénoms kabyles de Massinissa, Tacfarinas, Micipsa, ouais. Micipsa, Jugurtha, etc. Même vos mois agraires sont hérités des Romains. Et il ajoute une question, la petite Kabylie est-elle comprise dans les limites de l'État kabyle que vous appelez de vos voeux?
Écoutez, la Kabylie, merci pour cet auditeur, et sa question est tout à fait pertinente. Et nous sommes les dépositaires et les prolongateurs de toute cette histoire avec Rome, avec notre environnement méditerranéen, africain également, oriental et atlantique. Nous ne renions rien de ce qui nous appartient. Concernant maintenant la question de la petite Kabylie, c'est la France qui, après la révolte de 1871, avait coupé la Kabylie en deux et l'a créée, la petite Kabylie et la grande Kabylie. Pour nous, il n'y en a qu'une seule. En fait, ils ont tracé une ligne sur une crête de la montagne du Djurdjura en disant que, voilà, au-delà, à l'est, c'est la petite Kabylie, à l'ouest, c'est la grande Kabylie, alors que à l'est, la Kabylie était plus grande que celle qu'il y avait à l'ouest, même si, voilà, et nous, aujourd'hui, nous revendiquons notre territoire et notre Kabylie entière, et bien sûr qu'il n'y aura pas d'exclusion de quelque partie que ce soit de la Kabylie, et nous essayons de nous entendre avec tout le monde pour que le référendum soit le plus équitable possible et que l'indépendance soit consacrée pour que chacun se réconcilie avec lui-même, avec ses ancêtres, avec son histoire.
Mourad. Oui, moi je voulais simplement dire que voilà, nous comptons sur les forces politiques françaises pour non seulement exiger la libération de tous les détenus politiques, bien sûr les Français en premier lieu, à savoir Christophe Glaize, les Franco-Kabyles, mais aussi tous les prisonniers politiques kabyles qui sont environ au nombre de 500, ça change tous les jours parce qu'ils ont passé pas mal de temps en prison, ils sortent, ils rentrent. Et également, s'opposer à l'entrisme des services algériens, des consulats, des 20 consulats algériens qui sont très actifs pour bloquer les associations kabyles. Ils imposent le drapeau algérien, le drapeau palestinien, alors que les kabyles, d'habitude, mettent leur drapeau et le drapeau tricolore. Voilà, par exemple. Mais il y a une avancée aussi, disons, culturelle des autorités algériennes, des consulats d'Algérie, pour essayer d'imposer un peu leur thème, leur propagande islamisante, bien sûr, d'un côté, donc avec ce tropisme, mais aussi sur des sujets clivants comme la Palestine, sur lequel je voulais quand même dire un petit mot, parce que la Kabylie est un véritable peuple qui a sa propre langue, son territoire, sa reconnaissance. Voilà, on se reconnaît comme Kabyle, on est Kabyle ou on n'est pas. Et nous, d'après la définition de Montevideo, nous devons avoir un État, enfin, nous devons avoir le droit à l'autodétermination qui est pour ces peuples-là qui sont définis par le droit international.
Oui, la Kabylie coche toutes les cases nécessaires de la définition d'un État et d'une nation à travers le séminaire de Montevideo de 1933. Ceci dit, concernant un peu la France, bien sûr, la France est démocratique et elle est ouverte à toutes les idées. Et nous voyons avec, quelquefois, avec beaucoup de dépit que des franco-algériens défendent davantage dans les institutions françaises, au poste d'élus qu'ils sont, défendent davantage l'Algérie que la France. Voilà. Mais la France est démocratique et elle a ses institutions, elle a des moyens de se défendre. Mais nous, nous sommes là pour dire que la Kabylie peut apporter également, en tant qu'État indépendant, beaucoup à la France à travers aussi bien sa diaspora, sa communauté établie en France, qu'à travers des échanges fructueux entre la Kabylie et la France.
Une question d'auditeur.
Une question, alors plutôt une remarque d'auditeur qui est, ça aussi c'est Radio Courtoisie, une remarque culturelle. Bonsoir à toute l'équipe. Une petite précision, la citation « Je suis homme »,« Homo sum ergo humani, nihil ame alienum puto », rien ne m'est étranger, et de Terentius Affaire, Terence, auteur de comédie en 200 avant Jésus-Christ, aux alentours, et sans doute originaire d'Africa, d'où son nom Affaire, c'est-à-dire la Tunisie. Belle émission, dit-il. Voilà.
C'est une remarque que j'accepte volontiers. Effectivement, c'était Terence qui avait dit cela.
Oui, mais le mot Afrique, Africa, c'est un mot kabyle ou berbère qui veut dire terre. Donc voilà, c'est un mot qui vient de là, qui a été
exporté. Qui va plus loin que la simple Tunisie.
Tunisie, tout à fait.
Merci
et nos
précision.
Amitiés aux Tunisiens.
Voilà. Donc la situation de la Kabylie aujourd'hui, elle est sous cloche, si vous voulez. Il y a une chape de plomb qui est organisée autour d'elle. En Algérie, par la terreur, et ici en France, par les médias. Ceci dit, notre force consiste aussi à faire barrage et à montrer également nos capacités. Nous avons boycotté les élections présidentielles de 2019. Nous avons boycotté les référendums de révision constitutionnelle le 1er novembre 2020. Nous avons boycotté les législatives du 12 juin 2021. Nous avons boycotté les élections présidentielles du 7 septembre 2024. Et nous allons boycotter les élections législatives du 2 juillet prochain. Et c'est là que nous montrons que la Kabylie adhère au projet d'indépendance et adhère au fait que le gouvernement kabyle est le représentant et son représentant légitime à l'étranger et sur le terrain.
Vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission de la réplique dirigée par Bernard Anthony. Et je l'assiste et le supplée, Jeanne Smith. Nous avons le grand honneur de recevoir M. Ferhat Mehenni, qui est le président du gouvernement kabyle en exil, et votre directeur de cabinet, M. Mourad Amelal. J'avais juste une question, parce que nous en parlions avant cette émission. Vous remarquiez qu'avec les moyens modernes, Internet, les gens qui s'expriment, qui mettent des petits pouces levés sous des petits messages sur Internet, en Algérie et surtout et en Kabylie, pour un Kabyle, ça peut être dangereux de faire simplement ce petit clic sous une phrase qui vous est favorable.
L'Algérie a mis sur pied une police du net qui traque des likes, qui traque des j'aime sur des publications. Et ils ont fait une loi par laquelle mettre un like sur une publication du Mac ou correspondant au Mac
est passible. Alors, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie,
voilà, est passible de prison. Ils ont même envoyé un avocat qui travaille avec les services algériens pour expliquer à la télévision algérienne que dès lors que le Mac est classé comme mouvement terroriste, mettre un j'aime sur une publication qui parle du Mac est passible de 6 mois de prison minimum.
Oui, parce que toutes les publications, en fait, nous avons un organe de presse principal, nous avons énormément de presse sur les réseaux sociaux. L'État kabyle est très bien organisé et très bien médiatisé à l'intérieur de notre communauté. Et justement, en Kabylie, beaucoup de gens suivent. Bon, des fois, ils s'oublient parce qu'ils ont aimé un discours du président, ils ont aimé une publication. Ils s'oublient à mettre un j'aime ou à lever un pouce sous une publication et certains se font arrêter. Enfin, c'est dramatique. On est dans une situation de totalitarisme absolu. Je veux dire, c'est l'Union soviétique sous Staline, c'est la Corée du Nord.
Avec les moyens modernes,
il faut que les Français le sachent, qu'ils ont à leur côté un État véritablement totalitaire.
Ce que l'État algérien doit savoir, ce que la junte militaire doit savoir, ce que le régime colonialiste en Kabylie doit savoir, c'est que quelle que soit la répression, nous vaincrons. Parce qu'il y a l'adhésion populaire et un peuple ne change pas d'identité par la force. Quels que soient ceux qui ont pu signer contre le cœur comme quoi nous sommes terroristes et qui renoncent à toute revendication kabyle, en fait, dans leur cœur, ils demeurent kabyles. Et rien ne changera à cela. Nous vaincrons parce que nous sommes justes, parce que nous n'agressons personne, parce que nous ne sommes pas violents et parce que nous sommes conformes, ce que nos revendications sont conformes au droit international de tous les peuples. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie a soutenu le droit du Polisario à l'autodétermination, une communauté qui était évaluée au moment du départ des Français, à 60, des Espagnols du Sahara occidental, était évaluée à 75 000 personnes. Nous sommes 12 millions de Kabyles et l'Algérie ne reconnaît pas le droit au peuple kabyle à l'autodétermination. Ceci est une injustice flagrante que je demande à la communauté internationale de sanctionner par sa reconnaissance.
Eh bien, cher Ferhat Mehmedi, voilà une belle chute. Et donc, je pense que vous reviendrez, j'en suis sûr, à ce micro. J'avais une dernière question tout de même. Est-ce que vous bénéficiez d'une protection des services français, une protection efficace? Parce qu'il y a tout de même un terrorisme d'État algérien qui vous menace aussi.
S'il y a cette protection, elle doit être invisible. Et à mon insu.
Merci beaucoup.
Je vous remercie infiniment. Je remercie Radouille Courtasie, Bernard Antonio de m'avoir invité, ainsi que madame.
Nous retrouverons probablement à ce micro. Merci Ferhat. Merci Mourad.
Merci à vous et bonne soirée.
Merci. Jeanne Smith, nous continuons.
Notre tour de l'actualité, qui est le propre de l'émission de la réplique. Nous avons en tête de nos préoccupations, et c'est vrai que tout le monde en parle, mais cela mérite d'être souligné, l'affaire de l'assassinat sordide de la petite Liana. Alors Bernard.
Oui, naturellement, j'ai été touché comme tout le monde par cet abominable crime. D'autant que les choses ont duré, on se doutait bien de ce dont il s'agissait, mais il a fallu plusieurs jours pour que l'on sache ce qui l'en avait été, et on ne sait pas encore tout. Donc là, l'affaire de la petite Layana amène plusieurs réflexions. D'abord, moi je dois dire, père de nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, je ne comprends pas très bien l'usage, la coutume des soirées pyjama qui me paraît avoir été comme un fond de recrutement pour les monstres criminels, comment s'appelle-t-il, je ne trouve plus son nom subitement, mais ça va nous revenir. Alors, donc là, il y a... aussi une autre réflexion. J'ai suffoqué en apprenant par la bouche de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qu'il y aurait en cours, en ce moment, 75 000 affaires de pédocriminalité. Mais c'est absolument énorme. Alors, est-ce véridique ? Mais tout de même, M. Darmanin dispose des services d'un grand ministère, et ce qu'il avance est probablement vrai. Mais 75 000, on mesurera là dans quel degré d'abomination une partie de notre peuple peut être tombée.
Il faut bien le dire, alors ce suspect s'appelle Jérôme Barella, et il fait partie des suspects dont on entend quand même beaucoup le nom. Alors, d'une part, il nous fait peut-être un peu penser à Jordan Bardella.
Oui, ça.
C'est sûr que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on donne le nom de ce suspect, alors que dans d'autres affaires, où les noms ont d'autres sonorités, les médias se font plus discrets. En l'occurrence, il s'agit effectivement d'une petite fille de 11 ans, une petite fille qui a été en contact avec ce jeune homme, avec son tortionnaire, avec celui qui est soupçonné de l'avoir tué, on a entendu dire qu'on avait repéré qu'après l'école, elle passait jusqu'à une demi-heure dans la voiture de ce monsieur. Vraiment, on est face à une déliquescence, non seulement de la justice, parce qu'on a beaucoup parlé de la justice qui n'a pas fait ce qu'il fallait, et c'est vrai, mais et même les parents de cette petite fille ont dit que c'est un manque de moyens criant, et ils ont raison, puisque la France, au lieu de mettre les fonds qu'il faut pour ses fonctions régaliennes, pour que le droit soit respecté et pour que les crimes soient punis, oriente son argent vers d'autres préoccupations, vers des domaines où l'autorité de l'État n'est, somme toute, pas du tout indispensable, alors qu'en matière de justice, il faut effectivement mettre le paquet. Mais on a là, et avec ce chiffre que vous donnez, Bernard Anthony, 75 000 cas de pédocriminalité qui seraient répertoriés, on a une image du pays qui est terrifiante et qui montre que dans ce pays, il n'y a pas un sens moral partagé. Je ne cherche absolument pas à incriminer les parents de la petite fille. Ils sont dévastés, ils sont détruits. Ils n'ont jamais voulu ça. Mais ils sont dans un environnement où tout est sexualisé et où, par ailleurs, c'est la liberté affirmée pour énormément de choses. Dans les écoles, l'enseignement de la préparation à la vie affective et tout sauf cela, c'est l'enseignement d'une liberté absolue où tout ce qui est consenti est bon et où deux petits collégiens de moins de 15 ans qui ont envie de s'amuser peuvent le faire sans pour autant tomber sous le coup de la loi. Cela ne devient délictueux que lorsque l'un des protagonistes est un majeur et que par ailleurs il y a une mineure, en l'occurrence une petite mineure de 11 ans qui évidemment, ne peut donner aucun consentement. Ça, c'est un bon aspect de la loi française. En deçà de 15 ans, il est hors de question que l'on prenne au sérieux le soi-disant, le prétendu, pardon, consentement dans l'enfant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a là un contexte où une petite fille peut aller à des pyjama parties avec, avec des hommes faits, où l'école sait qu'elle passe du temps dans la voiture d'un jeune homme et ne dit rien, n'avertit pas les parents. Où était l'école? Où est l'enseignement? Où est la formation morale des jeunes? C'est tout un ensemble social qui s'écroule et c'est cela qui se lie dans cet abominable assassinat qui a tué Liana et qui a, en quelque sorte aussi, tué ses parents. Ils vivent l'impensable, ils vivent l'horreur. Nous ne cherchons pas à les accabler, tout au contraire. Mais c'est une vérité, nous sommes dans un contexte où l'enfance et l'innocence ne sont plus protégées.
Alors, Jeanne, cette affaire en réveille d'autres, finalement, et qui ressortent en ce moment beaucoup. Alors, nous avons pu lire dans la presse un certain nombre d'articles tout à fait considérables, tout à fait admirables, sur le cas de Henri Novak, ce martyr de l'utopie antiraciste. Donc, Henri Novak, sur lequel notamment notre ami Gilles-William Goldnadel a consacré un long article titré « Un genou à terre pour Henri Novak », faisant allusion, naturellement, à ce qui s'était passé aux États-Unis, donc avec la mise à mort de George Floyd. Donc là, donc Henri Novak, qui lui donc, a été mis à mort finalement, donc il avait 18 ans, ses derniers mots enregistrés ont été « Je n'arrive pas à respirer », donc mise à mort par des policiers.
Non, pas exactement.
Pas exactement.
Non. Il faut préciser l'affaire. Henri Novak, c'est un jeune étudiant, il a 18 ans, il vient de passer une soirée avec des copains parce que c'est la fin du semestre, il n'a pas particulièrement bu, il ne se drogue pas, il se promène dans la rue et il décide de rentrer chez lui à pied et il croise dans un quartier de sa ville de Southampton, il croise un jeune sikh, 23 ans, un jeune homme qui porte son turban, qui porte son couteau rituel de sikh, en tout cas celui qu'il revendique comme tel, et ça doit se voir, et le jeune Henri Novak, qui est connu pour être assez gentil, facétieux, lui demande « Vous êtes un homme mauvais, vous ?» Et c'est là que l'altercation commence, le sikh s'approche et va le planter par 5 fois, c'est-à-dire lui planter son couteau de plus de 20 cm, non seulement dans divers endroits du corps, mais surtout dans les poumons. Et à ce moment-là, Henri Novak est en fait déjà condamné à mort, puisque ses poumons commencent à se remplir de sang. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit « je n'arrive pas à respirer ». Et là, le sikh prend peur, parce que évidemment, il voit Henri Novak qui s'écroule. Certaines personnes autour entendent les cris du jeune homme au départ et appellent la police, mais le meurtrier va aller jusqu'à appeler lui-même la police et dire « Je fais l'objet d'une agression raciste ». Il s'appelle Vikram Degwa. Il a eu le nez creux. Je crois que c'est le procureur... Non, dans le système judiciaire anglais, c'est un peu différent de la France, mais c'est l'enquêteur principal qui, à la première audience dans cette affaire, va dire il a joué un atout en faisant appel à la protection de sa couleur de peau, finalement, de sa religion. Et la police arrive, une police qui est formatée pour traquer le racisme, une police qui a reçu en 2023, 2023, il y a eu des circulaires pour dire qu'il fallait traiter différemment et plus doucement les Noirs que les Blancs, parce que les Noirs faisaient l'objet d'un racisme systémique. Ces policiers en sont convaincus, donc quand ils arrivent sur la scène, ils voient Henri Nowak à terre et le Sikh, Vikram Degwa, qui explique, oui, il m'a traité, il m'a mal parlé, il m'a arraché mon turban, oui, il m'a fait mal à la tête, vous vous rendez compte? On entend tout ça sur la bande, le vidéo que les policiers ont enregistré, puisqu'ils ont des caméras sur leur corps pendant les interventions. Pendant ce temps-là, Henri Nowak est à terre, il est en train de mourir. En réalité, on ne peut plus rien faire pour lui, sinon au moins lui assurer une proximité, enfin une humanité au moment de sa mort. Les policiers prennent au sérieux son agresseur, accusent Henri Nowak de racisme. Henri Nowak dit par 5 fois ou 4 fois « J'ai été poignardé ».« Oh, je crois pas, mon vieux », répond le policier. « Je ne crois pas ». En fait, il avait été poignardé dans le ventre, ça ne se voyait pas, il avait une chemise noire. Donc, effectivement, on ne voyait pas de sang, mais il peine à respirer. Il le répétera là 9 fois, je crois. « Je n'arrive pas à respirer ». Or, la police le jette à terre, le retourne, lui demande d'aider à se faire menotter dans le dos. Toute la scène est abominable. On peut la suivre, seconde par seconde. Et alors que Nowak commence à ne plus dire grand-chose, et on comprend pourquoi, on entend le policier dire « Vous êtes en état d'arrestation, vous êtes accusé de racisme, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz peut être retenu contre vous. » On entend une policière derrière qui dit « Mais regarde, il y a même ses pupilles qui ne bougent plus, il faut peut-être faire quelque chose, il faut peut-être appeler une ambulance. » Mais le débit de la mise en garde officielle, vous pouvez garder le silence, continue, ce sont les dernières paroles qu'Henri Nowak a entendues sur cette terre. C'est quelque chose d'abominable, parce que la police, au Royaume-Uni, est systématiquement accusée de racisme, c'est comme dans l'affaire George Floyd, quand il se passe une affaire avec des minorités de couleur ou d'autres minorités, et lorsqu'il y a un jeune blanc, il est d'une famille polonaise, enfin son père est polonais, sa mère britannique, lorsqu'un jeune homme comme cela crie et demande de l'aide parce qu'il est en train de mourir, on ne trouve qu'une réponse, on va le menotter dans le dos. C'est quelque chose qui a ulcéré les Anglais, et on le comprend, et qui a provoqué certaines réactions bonnes. Nous allons revenir un peu sur ce formatage de la police, on dit certains. Seulement, depuis lors, il y a eu des éditoriaux dans les journaux de responsables ou d'anciens responsables de la police disant « Non, il faut renforcer cette formation antiraciste, parce que c'est vraiment nécessaire, vous ne vous rendez pas compte, les Noirs, les Sikhs, les musulmans, les Pakistanais, etc., sont réellement victimes de problèmes, donc il ne faut pas détruire tout ça. » Et la police de la région de Southampton, justement, est justement en train de recruter un officier de la diversité à 75 000 livres par an, ça doit faire à peu près 85 000 euros par an de salaire pour assurer le respect des minorités. Donc on a au Royaume-Uni avec cette affaire quelque chose qui a éclaté à la figure des Anglais, des Britanniques en général. Ils sont maintenant, on ne peut plus conscient d'une justice à deux vitesses. C'est ce qu'a dénoncé Nigel Farage du parti Reform, en disant que il est évident que la police traite différemment les autochtones et les migrants. Enfin, en l'occurrence, le Sikh agresseur est né en Angleterre, sa famille était là depuis longtemps, bon, très bien, mais il n'en reste pas moins qu'il suffit d'avoir une certaine couleur de peau pour être traité différemment. Et aujourd'hui, c'est contre les Blancs que cela se joue.
Et notamment, voilà ce que écrit Gilles-William Donadel, Henri Nowak a été tué 2 fois. Par le couteau de son meurtrier et par l'idéologie discriminatoire de ces gardiens de l'ordre inique. Ce traitement en noir et blanc est un choix idéologique. Dans le cas de Floyd, le récit médiatique s'est immédiatement structuré autour du racisme. Un homme noir victime d'un policier blanc confirmait le dogme du racisme consubstantiel occidental. Dans le cas Nowak, un jeune blanc, victime d'un immigrant dont la communauté bénéficie de la protection idéologique du système. Ici, le récit ne peut pas passer. Il faut donc non pas le narrer, mais le neutraliser. Goldnadel, un peu plus loin, écrit ceci. Dans mon journal d'un prisonnier, j'avais comparé le destin de Tommy Timpa de Dallas, un blanc innocent, tué par la police et qui, noté lui aussi, ne pouvait plus respirer. L'affaire fut néantisée pendant des années, avec le déferlement planétaire qui a suivi la mort de Floyd. Le premier n'avait pas le bon profil racial pour mériter les pleurs des éditorialistes, et les policiers avaient été relaxés. Pourtant, et pour reprendre l'obsession pathologique de la race, il y avait un policier noir parmi ses tourmenteurs.
En effet, et moi j'ai envie d'ajouter, Bernard, que l'affaire Nowak illustre le fait que l'antiracisme, le soi-disant antiracisme, qui nous est imposé par la loi, est en réalité un racisme à l'envers. Et en l'occurrence, la police qui a arrêté, qui a menotté, qui a déclaré un jeune homme qui était en train de mourir seul, et sous le regard de son meurtrier, tout cela, c'est le fruit de cette idéologie que vous combattez en montrant que si on est antiraciste, il faut l'être pour tous.
En effet, Jeanne, vous le savez, je n'ai cessé de répéter comme président fondateur de la GRIF. Aujourd'hui, je ne suis plus que le président émérite, mais je n'en continue pas moins le combat en soutenant mon successeur, qui est un bon successeur, à savoir Ian Bali. Là, je continue en martelant en chaque occasion, j'y viens en chaque occasion que l'antiracisme est un racisme en sens contraire, très souvent. Voilà, alors je crois que Stéphane souhaite faire passer le bobino coutumier des émissions de Radio Courtoisie.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Poursuite d'émission. Alors, nous voulions évoquer aussi l'affaire Alban Gervais, c'est-à-dire une affaire qui illustre l'irresponsabilité pénale gravement. Quelle a été cette affaire? Alban Gervais était un médecin militaire, père de 3 enfants, poignardé à mort en mai 2022 à Marseille. Donc son assassin a été donc interné, mais voilà que l'on apprend. 4 ans à peine après le meurtre sordide donc d'Alban Gervais, que son bourreau, Mohamed El, donc voilà, pour ce qui est du nom véritable, il faut le trouver ailleurs, est sorti la semaine dernière de l'hôpital psychiatrique où il était interné sous contrainte depuis 2025. Le meurtrier est désormais suivi dans un hôpital pendant la journée, du lundi au vendredi, mais libre de retourner à son domicile le soir et le week-end. La décision a été prise par des psychiatres et validée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas de possibilité de recours. Pour Christelle Gervaise, l'épouse de la victime, le choc est terrible. Comment, comprendre qu'on puisse être dehors 4 ans après un meurtre comme celui-là. Questionne-t-elle, évoquant son profond sentiment de colère, d'injustice, de tristesse et surtout d'inquiétude. Rappelons que le crime avait eu lieu le 10 mai 2022 à Marseille, à proximité du groupe scolaire catholique sévillé. « Je pars chercher les enfants », écrivait Alban Gervaise à sa femme. « Le médecin militaire doit récupérer ses 2 garçons de 3 et 7 ans à l'école. Il patiente dans sa voiture avec sa fille âgée de 20 mois, installée dans un siège auto à l'arrière. Soudain, voilà les circonstances du crime, un inconnu, Mohamed El, 23 ans, pénètre dans l'habitacle, côté passager, et l'attaque avec un couteau suisse. Le médecin ne fuit pas immédiatement pour protéger sa fille. La suite a lieu à l'extérieur du véhicule. L'assaillant poursuit à pied le radiologue sur une 20aine de mètres, le pousse dans un laurier, puis le larde de coups de couteau. Alban Gervaise en reçoit 10 dont l'un fatal au niveau du cœur. L'acharnement est tel qu'une lame cassée sera retrouvée sur place. Mohamed El est maîtrisé par 2 passants. Laissez-moi le finir au nom d'Allah, je vais le finir, s'écrit Mohamed El, vocifère plutôt mot par mot Mohamed El. Voilà donc une affaire qui vient après, donc différente celle de l'abomination de la torture qu'a subie la petite Layana, mais donc comment comprendre que de l'hôpital psychiatrique, on puisse après ce crime abominable extraire le meurtrier d'Alban Gervaise.
Malheureusement, ce genre d'affaires se multiplie maintenant en Europe. Bien sûr, nous avons tous à l'esprit l'affaire qui se déroule actuellement en Irlande du Nord, où un homme qui ne demandait rien à personne, qui était Stephen Ogilvie, un homme tout à fait pacifique, il se promène et il a été attaqué par un migrant soudanais. Là, pour le coup, si le Sikh anglais n'était pas un migrant, c'était quelqu'un dont la famille était établie au Royaume-Uni depuis longtemps, au contraire, Hadi Al-Odid, lui, il est arrivé par divers moyens. Il est passé par la France, il a trouvé tous les moyens pour contourner les lois et arriver en Irlande, la République d'Irlande. Il a voulu aller en Irlande du Nord, il a profité de l'absence de contrôle systématique entre les deux pays parce qu'il y a un accord qui s'est fait au moment du Brexit. Cela lui a permis de s'établir en Irlande du Nord et à se voir reconnaître un statut de réfugié en tant que Soudanais. Il avait un permis de séjour qui lui permettait de rester en Irlande du Nord jusqu'en 2028. Il s'est promené dans la rue, il a vu cet homme d'une 40aine d'années, Stephen Ogilvie, il l'a attaqué au couteau, il a voulu le décapiter ou l'égorger. La chose n'est pas très claire, mais quoi qu'il en soit, le pauvre homme est aujourd'hui dans le coma. Il n'est pas mort, mais il est dans un état grave, on s'en doute. L'Irlande du Nord est secouée par des manifestations extrêmement fortes de la part de la population que j'appellerais autochtone. Il y a eu des voitures brûlées et même des habitations dans des quartiers de migrants brûlés. C'est injuste, c'est mal, mais c'est aussi le signe que la justice ne fonctionne plus et que lorsque les gens prennent leurs affaires entre leurs propres mains, eh bien, on ne contrôle plus grand-chose. Donc c'est là encore le signe d'une faillite de l'État, le signe d'une préférence étrangère, finalement, puisque ça fait maintenant plusieurs années que l'Irlande et l'Irlande du Nord sont marquées par des manifestations d'habitants d'origine qui ne comprennent pas que leur pays soit à ce point ouvert à une immigration clandestine qui ensuite est régularisée par le biais de l'accueil des réfugiés.
Et puisque nous étions tout à l'heure sur la triste abomination de l'assassinat de la petite Layana, il faut rappeler aussi que à Paris, À Paris, il y a donc eu, comment dirais-je, diffusion des phénomènes de pédocriminalité que l'on attend du maire de Paris, le nouveau maire de Paris, que lumière soit faite sur ce qu'il y a, donc sur cette pédocriminalité à Paris. Alors, j'évoquais tout à l'heure le chiffre donné, le chiffre accablant, effarant, donné par M. Darmanin, mais là, donc, en l'occurrence, on attend de savoir aussi ce qu'il en est à la mairie de Paris et dans les établissements scolaires qui dépendent notamment de la mairie de Paris.
C'est une affaire vraiment très révélatrice encore, celle-là, puisque elle montre que les affaires que l'on met au jour dans des écoles catholiques reçoivent toute l'attention des médias, tandis que l'affaire des crimes pédophiles ou des crimes et délits pédophiles dans la capitale, dans des maternelles et dans des écoles primaires de Paris, il a fallu vraiment batailler pour qu'elle soit médiatisée, pour qu'elle entraîne des réactions. Et il y a eu des coups de frein, il y a eu des refus d'enquête, il y a eu toutes sortes de manœuvres pour que cela ne se sache pas. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, était chargé des relations humaines, des ressources humaines à la mairie de Paris depuis, à certaines époques, pendant ses 10 ans comme élu au conseil municipal de Paris. Vraiment, il y a là des questions qui se posent et on se demande comment on peut avoir autant de commentaires finalement lénifiants avant que, enfin, cette affaire n'éclate en tant que scandale. Et ce que cela a révélé, c'est notamment, dit-on, l'existence d'un réseau dans ces milieux. Comme on le sait, depuis que l'école est obligatoire dès 3 ans et qu'il s'agit de garder les enfants à l'école le plus longtemps possible, alors par des activités extrascolaires, les besoins en personnel d'animation autour de ces petits, et voire de ces tout-petits, ont explosé, c'est mal payé, ça n'est pas un travail passionnant, ça attire des candidatures insuffisamment nombreuses, on prend un peu n'importe qui, on ne vérifie rien et on se retrouve avec des atteintes aux enfants qui ont jusqu'à des viols sur des enfants de maternelle. Donc vraiment un scandale gigantesque qui a peiné à être dénoncé et qui a aujourd'hui, qui a aussi entraîné, mais par un autre biais, l'adoption d'une loi qui, elle, s'est révélée au départ principalement anticatholique. C'est dans la suite de l'affaire Bétaram, alors ça c'est une affaire finie, c'est une affaire terminée, ça n'est pas comme la pédocriminalité qui continue à Paris, puisque je crois que 80 dossiers sont actuellement à l'instruction. C'est dans la foulée de l'affaire Bétaram qu'il y a eu la décision d'une proposition de loi d'une députée Renaissance, je crois, Steelboot, et flanquée d'un LFI, bien sûr, les LFI sont là pour protéger l'enfance. Et cette loi proposait de lever le secret de la confession et proposait, ça a été repoussé, proposait également de renforcer le contrôle sur les écoles privées sous contrat et les écoles hors contrat, alors que tout se passe, enfin je ne dis pas que tout se passe dans l'école publique, mais l'école publique n'est absolument pas à l'abri de ce genre de choses, et l'affaire de Paris montre que cela se fait même à grande échelle et en réseau. Là, on a aussi ce petit deux poids, deux mesures qui est assez évident et qui montre que quand on est dans les rouages de l'État, eh bien, on peut aussi avoir parfois certaines protections.
Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais je pense qu'il faut le faire, que les Britanniques sont devant la révélation des crimes de pédophilie commis à grande échelle par des ressortissants pakistanais. Là, c'est quelque chose d'effarant. Et on peut comprendre qu'il y ait donc maintenant une évolution générale, au fond, dans les pays européens, puisque, voyez-vous, on aborde Paris, bien sûr, les établissements scolaires parisien. On a évoqué un certain nombre de choses, mais là, en l'occurrence, il s'agit donc des ressortissants donc pakistanais qui ont donc pendant plusieurs années impunément pris des enfants donc en quelque sorte comme victimes, comme esclaves sexuels, et ça a mis des années et des années pour être découvert. On peut en conclure que c'est tout de même l'Europe qui est très malade aujourd'hui, donc en général et donc en particulier dans ces cas que je voulais citer.
Oui, parce qu'en fait, il y a une espèce d'autocensure de la part des forces de l'ordre. Ce fut le cas au Royaume-Uni avec ces gangs qui se jetaient sur des jeunes filles, des mineures blanches, souvent de milieux très simples. Cela commençait par des déclarations d'amour et des « viens avec moi, tu seras bien, je vais te couvrir de cadeaux ». Et ça se terminait effectivement en esclavage sexuel et en exploitation de prostitution. Non voulu, bien évidemment, par ces mineurs, et que la police n'a pas voulu dénoncer parce que, comme dans l'affaire d'Henri Novak, il y a une peur s'est installée. La peur de dénoncer des gens qui sont protégés par leur statut de minorité ethnique ou religieuse.
Merci Jeanne. On va continuer dans notre fil conducteur de la réplique. Alors, donc là, il faut parler maintenant de la venue de Léon XIV en Espagne, qui est une venue importante. Donc, vous avez lu attentivement, Jeanne, suivi les discours de Léon XIV. Qu'en avez-vous retenu ?
Alors, beaucoup de choses. Léon XIV est venu dans un pays de haute histoire catholique, et il l'a dit, il a évoqué le fait que l'Espagne a été évangélisée par le grand Saint-Jacques le Majeur, l'apôtre. Il a évoqué toute la culture catholique qui a façonné l'Espagne, et il a demandé aux Espagnols d'en être conscients. Il a regardé autour de lui à Madrid en disant « mais c'est la foi ». Qui a fait cette magnifique capitale. Alors, bien sûr, il y a chez Léon XIV, il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel, qui est souvent enthousiasmant, qui est très profond, très christocentré, et puis parfois aussi des déclarations plus politiques, plus marquées par une modernité certaine. Un discours sur les droits de l'homme qui semble, dans ce domaine particulier, oublier parfois les droits de Dieu. Peut-être le moment le plus remarquable de la présence de Léon XIV en Espagne a-t-il été son discours au Cortés. Il a été reçu par les députés et il y a fait un très long discours important, où il est revenu sur sa volonté de réguler, de faire réguler l'intelligence artificielle, où il a parlé de la dignité du travail, il a parlé de la solidarité, il a parlé des migrants, parce que c'est le passage obligé et que depuis le pape François, les migrants ont leur statut sur la place Saint-Pierre. Ça, on n'y a pas échappé, et devant les députés espagnols, devant ce gouvernement espagnol de Pedro Sanchez qui a ouvert très largement les portes à la migration, eh bien, on peut être un peu irrité par cet aspect du discours. Soyons irrités, mais sachons voir aussi que le pape, devant les Cortés en Espagne, a su tenir un langage extrêmement fort devant un pays socialiste, devant une classe politique socialiste espagnole qui est en voie de prendre le même chemin que la France et qui veut constitutionnaliser le droit à l'avortement. Eh bien, devant ces députés-là, devant ces autorités-là, le pape Léon XIV a tenu un langage véritablement très clair. Et là, je crois qu'on peut, lire, ce n'est pas très long, on peut lire ce qu'il a proclamé devant ce Parlement dominé par les socialistes, par les idéologues du wokisme, par les promoteurs de l'idéologie du genre. Voici ce qu'il a dit. Donc, Léon XIV. « Sur cette base, il m'appartient aujourd'hui de prononcer une parole sereine et ferme devant ceux qui ont la grave responsabilité d'organiser juridiquement la vie en société. Cette vie en société peut être menacée par la culture du rejet, comme l'a souvent si souvent mise en garde le pape François. » C'est pas très mal, pas très bien traduit, cette affaire. Donc, le pape Léon dit aux députés espagnols, « En ce sens, si la vie cesse d'être reconnue comme une valeur fondamentale, quel avenir nos sociétés peuvent-elles avoir? Peut-on qualifier de pleinement juste une communauté qui laisse dans l'ombre l'enfant à naître, la personne âgée, le malade, celui qui souffre en silence ou celui qui dépend entièrement des soins d'autrui? La défense de la vie humaine n'est ni une question partielle, ni un intérêt confessionnel, c'est un objectif de civilisation. Toute vie humaine doit être reconnue et protégée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel, dans toutes les circonstances de son existence. Lorsque cette certitude s'estompe, les plus vulnérables sont les premières victimes et la loi perd son sens le plus profond, servir et protéger chaque personne. C'est pourquoi la grandeur morale d'une nation se manifeste avant tout dans sa capacité à accompagner, protéger et aimer les vies qui traversent la plus grande fragilité. Voici ce que dit donc Léon XIV devant les parlementaires espagnols. Vous me passerez l'expression, c'est culotté, il fallait le faire. Il a été applaudi, c'était peut-être le
plus étonnant.
Le seul.
Il a été ovationné.
Il a été ovationné, comme vous dites, Bernard Antony.
Jean-Méry Desnois, dans sa page de compte-rendu dans le Figaro. Sous le titre « Au Parlement espagnol, Léon XIV se démarque de son prédécesseur », sous les applaudissements. Donc, ovationné, ça, on ne s'y attendait pas, a priori.
Je dois ajouter que dans ce discours où il y a tout de même à boire et à manger, je l'ai dit en introduction, il y a des aspects qui sont très intéressants. Le pape Léon XIV a en gros rappelé aux parlementaires qu'il y a des vérités qui sont antérieures aux décisions démocratiques, antérieures et supérieures, dit-il. Il y a véritablement des principes auxquels on ne peut déroger sans en effet perdre sa valeur morale. Et ça, c'est une affirmation nette de l'autonomie de l'État dans son domaine particulier, certes, mais qui doit être soumise au regard d'un jugement supérieur qui est celui de la vérité et de la bonté morale. Ça, je pense que cela mérite d'être mis en exergue, tout comme doit être mise en exergue la manière dont Léon XIV salue l'œuvre espagnole dans ses grandes conquêtes, son expansion vers l'Amérique latine, sous la houlette d'Isabelle et de Ferdinand, Isabelle la catholique et son mari Ferdinand de Castille, le pape consacre de longs développements à l'école de Salamanque, qui a insisté sur les droits et les devoirs des personnes, le devoir notamment de respecter les populations locales. Tout cela est remarquable. Il montre comment, avec la force de sa foi chrétienne, de sa foi catholique, l'Espagne a su dégager cet important aspect du respect de chaque homme dans la société, dans les pays. Et avec tout cela, il nous cite Don Quichotte, il nous cite avec son et son auteur Cervantes, il cite Thérèse d'Avila, il cite Miguel de Unamuno, ça n'est pas rien. On a là quelque chose c'est du solide.
Et c'est pour cela que, en exergue de son long compte rendu, Jean-Marie Desnoy a écrit ceci, dans un discours très marquant, le pape a jeté les bases de son pontificat, deux points, revenir aux fondamentaux de l'Église. Revenir aux fondamentaux de l'Église. S'il faut y revenir, c'est que ça en était quelque peu écarté. Avec en son centre la défense de la vie et la protection des plus fragiles. Ovation des parlementaires. On peut penser que le discours du pape a touché au plus profond, parce que tous ces députés qui l'ovationnent ne sont tout de même pas des députés de droite.
C'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement, ils prennent des lois absolument abominables. Et alors, il faut aussi souligner, parce que ça fait partie de l'histoire, au moment précis où Léon XIV entrait au Parlement, entrait au Cortés espagnol, non loin de là, à la Valle de los Caídos, qui est, comme bien sûr, ce monument, ce lieu de prière pour les morts de la guerre d'Espagne, 1936-1939.
Les morts des deux camps.
Et les morts des deux camps, c'est Franco qui l'avait voulu. Ce lieu est sous les assauts du gouvernement socialiste, avec une certaine complicité du primat, de l'archevêque de Madrid. On veut redonner une nouvelle signification à ce lieu, et à l'instant même où Léon XIV entrait au Parlement, eh bien, on déclenchait les travaux de destruction de l'esplanade du Valle de los Caídos, où on va faire des parcours de découverte de l'histoire et de l'antifranquisme primaire.
Jeanne, je pense que là, on a à peu près couvert ce qui en était de Léon XIV en Espagne. On viendra peut-être dans d'autres occasions plus longuement sur le contenu de son encyclique, Magnificat Humanitas. Là maintenant, donc, nous avons noté de dire quelques mots de la guerre en Orient. Elle se continue avec chaque jour ces retournements. Donc, quand je parle de guerre en Orient, il s'agit de la multiguerre qui a fait Israël confronté notamment au Hezbollah au Liban, avec les drames que le Liban subit, parce que ce n'est pas cette guerre qu'il faut mener au Liban, c'est une autre histoire. Donc là, pour ce qui est de l'Iran, les choses ne s'améliorent pas. On peut dire aussi que le phénomène Trump n'est pas très, très facilement digne de commentaires, parce que tous les jours, ce sont des revirements, des volte-face, des stratégies différentes. J'ai peur que cette guerre que j'ai qualifiée de multiple en Orient ne soit pas, hélas, terminée de sitôt. Espérons que si.
Oh, je voudrais signaler à ce propos que le dernier numéro de Reconquête, qui est la revue du Centre Charlier, et non pas la revue d'un certain parti politique, comporte plusieurs articles sur la souffrance des Libanais qui sont pris en otage, finalement, entre le mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran et Israël qui se défend contre cet agresseur aussi. Mais ce sont les Libanais qui trinquent.
Alors là, il faut dire aussi qu'il y a dans cette revue, sous le titre « Non aux collabos français du poutino-stalinisme », comme une réponse faite à l'actualité poutinophile que nous constatons. À savoir que on peut noter que dans certains hebdomadaires, le JDD pour ne pas le nommer, Philippe de Villiers, Luc Ferry, Henri Guénaud, donc font tous profession de sympathie pour la Russie poutinienne, eh ben, on trouve la réponse dans Reconquête, où Bruno Fanouti nous a livré un article tout à fait remarquable sur les nouveaux collabos au service de Moscou. Alors là, il commente les cas de Jacques Beau, qui se présente toujours comme un ancien colonel de l'armée de la Confédération helvétique, qui est devenu en fait un véritable agent de propagande de Moscou. André Berkoff, journaliste et polémiste de talent, qui officie depuis de longues années sur Sud Radio, mais qui n'a pas oublié ses origines russes. Ensuite, Caroline Galacteros, géopolitologue, ayant fait des études l'IEHDN, mais qui diffuse depuis de longues années la propagande du Kremlin sans aucune nuance ni retenue. Donc elle est viscéralement anti-américaine et anti-atlantiste. Elle se fait souvent le chantre de l'eurasisme prôné par l'idéologue russe Alexandre Douline, que vous connaissez bien, Jeanne. Enfin, au moins,
que je ne connais pas, mais que je lis.
Que vous lisez, vous connaissez, je veux dire par là, son œuvre et son rôle. Donc là, on découvrera cela, notamment Régis Le Sommier, aussi ancien directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, donc qui a collaboré à Russia Today avant de fonder le magazine Omerta, dont l'unique actionnaire est un Français qui a un cabinet de conseil basé à Moscou. Enfin, citons au moins Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, passé au Front National puis au RN, où il a réussi à la surprise générale à sauver en 2024 son siège de député européen à Strasbourg. Mais à force de trop en faire, il a perdu toute crédibilité et même la confiance de ses électeurs, puisqu'il a réussi l'exploit lors des municipales de mars dernier de ne faire que 1,6% des voix. Ce fut assurément, dit Bruno Fanouti, la plus belle nouvelle de cette soirée électorale. Et enfin, Xavier Moreau, qui vit et prospère à Moscou depuis de longues années, où il anime un site à la gloire du Kremlin et qui est incontestablement l'un des plus acharnés à défendre et à justifier aveuglément tout ce qu'entreprend Poutine à commenter par la guerre en Ukraine. Rappelons à ce propos d'ailleurs que pour ce qui est de la guerre en Ukraine, le pape Léon XIV a toujours été d'une extrême clarté. Ce que nous avons pu noter à l'occasion d'un certain nombre de discours.
Vous vouliez parler, Bernard Anthony, des tensions entre la Russie et l'Arménie, justement.
Oui, donc là, affaire à suivre aussi, parce que l'Arménie a été traditionnellement sous protection russe. Or, là, les rapports se sont dégradés à partir du moment que l'Arménie a été attaquée par l'Azerbaïdjan, soutenue par la Russie. Donc là, on peut craindre que les choses ne se dégradent encore en Arménie, mais là, le peuple arménien est tenace et entend résister. Ils ont résisté héroïquement à l'Azerbaïdjan, dont ils vont continuer à résister. Et on peut penser que l'Arménie va pouvoir être durée, parce que c'est un vieux peuple chrétien, c'est même le plus vieux peuple chrétien. Nous avons beaucoup d'amis arméniens qui écoutent cette émission, et je pense que là, ils seront satisfaits de nos constats. De nos constats, on ne peut pas être, pas plus qu'on ne peut être pour les Russes de Poutine. Alors là, une nuance, sommes-nous anti-russes ? Nous, sûrement pas. Puisque je le rappelle assez souvent, tout notre militantisme de jeunesse a consisté à travailler avec le NTS, l'Union des solidaristes russes, travailler avec le NTS contre le régime soviétique. Ce n'est pas à nous qu'on pourra faire des reproches d'anti-russisme, si l'on peut dire. Hélas, hélas, le régime de Poutine est un régime d'idéologie eurasiste, donc matinée d'influence stalinienne.
Il nous reste une minute, Bernard Anthony, et donc rappelez que cette émission, vous pourrez la réécouter, vous pourrez également, si vous êtes adhérent de Radio Courtoisie, pour une modique somme, vous pourrez y accéder librement dans les archives et suivre nos émissions, soit sur votre ordinateur, soit en podcast. Je crois qu'il y a un mot français pour ça, mais il m'échappe. Et donc, vraiment, une œuvre à soutenir. Bernard, vous avez 30 secondes.
Oui, 30 secondes pour dire que dans le prochain numéro de Reconquête, on trouvera un article tout à fait remarquable de notre ami Michel Léon, qui, dans chaque publication, évoque les méfaits du jacobinisme sur d'autres pays. Et là, il titre son article « La Corse est un symptôme », parce que là, ce qui est aujourd'hui en cause, c'est le statut de la Corse que le régime actuel voir très différemment de ce que sont la Sardaigne et la Sicile, puisque donc c'est encore en Corse qu'il y a l'avancée jacobine la plus forte, et notamment, curieusement, l'aide aux autonomistes corses de la Russie, ce dont nous aurons probablement à reparler.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française, dirigé ce soir par Bernard Anthony, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 10 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.